Canus Info. Tous les deuxièmes lundis du mois, le Canu Info s'organise en mixité choisie, sans Maxis, pour parler de l'actualité
avec un regard féministe.
Quoi ? On n'a pas le droit d'y aller, ouin ouin, mais c'est du racisme, c'est de la discrimination de l'homme blanc qui pourtant souffre au quotidien.
Sur Radio Canu,
102.2,
la plus rebelle des radios.
Non,
les plus rebelles de la radio.
Place n'était pas là. Dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors.
C'est nous qui faisons leur richesse. Et aujourd'hui, s'ils sont en cravate, ils marchent avec des voitures de luxe. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Si nous-mêmes, les femmes, on ne sort pas du silence pour dire stop, parce que c'est nous qui subissons. On les fait enrichir et nous, on ne gagne rien dans nos poches.
Non, ne me demandez pas, non, de ne pas me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça.
Bonsoir, il est 19h passé, on est lundi et c'est l'heure du Canus Info, en mixité choisie. Gros programme ce soir, on va commencer par vous parler de la dissolution de l'Assemblée nationale et des appels à rassemblement qu'il y a ce soir, pour aller ensuite du côté de l'international et vous parler de la démission de Benny Gantz du gouvernement de guerre israélien. Ensuite, au niveau du national, on vous parlera, on fera un retour sur la mobilisation contre l'A69. On vous parlera des dockers en grève 14 jours en juin pour leur retraite et du début du procès aujourd'hui, du procès du commissaire suite à la mort de Steve à Nantes.
Et puis on aura un gros dossier spécial JO avec l'interview d'une militante du collectif Le Revers de la Médaille et aussi pas mal de sujets sur la question, les hormones dans le sport de compétition. On vous parlera d'extractivisme olympique, de la question de l'hébergement à Lyon et peut-être même de mobilisation du côté de Saint-Étienne. Mais on commence tout de suite par vous parler de la dissolution de l'Assemblée nationale.
Sans trop spoil.
Oui, hier, Macron a annoncé...
Vous avez vu pas l'info, on vous la donne en exclusivité.
Dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Macron hier. Suite donc aux résultats aux élections européennes où l'extrême droite a fait environ 37%. 31% pour le RN et 5% pour le parti néo-fasciste mené par Marion Maréchal Le Pen Reconquête, avec les macronistes loin derrière à 14,60% et le PS à 13% qui a torpillé un peu LFI qui n'a fait que 10%. Je vous passe les autres scores. En tout cas, Macron a donc annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives avec un premier tour dès le 30 juin et un deuxième tour le 7 juillet. En faisant ça, il ouvre grand la porte à l'extrême droite. D'ailleurs, le RN réclamait cette dissolution. Jordan Bardella en a reparlé juste avant que Macron l'annonce. Apparemment, la stratégie mortifère de Macron, c'est de miser soit sur un front républicain en sa faveur pour regagner une majorité à l'Assemblée nationale, soit de carrément laisser l'extrême droite gagner une majorité et entrer au gouvernement, en misant sur l'usure du pouvoir pour que les Français soient déçus du Rassemblement national et réélisent les macronistes à la prochaine présidentielle en 2027. Dans ce cas-là, les macronistes dissoudraient de nouveau l'Assemblée pour retrouver une majorité. Alors c'est une stratégie vraiment très dangereuse, puisque le RN est préparé et boosté comme jamais, a déjà sélectionné tous ses candidats pour le dépôt des listes qui doit avoir lieu dès ce dimanche 16, et même le dimanche 16 au plus tard, avec un début de campagne prévu le lendemain, donc lundi prochain. En face, la gauche est divisée avec le PS et Glucksmann qui ont torpillé les voix de LFI qui commençaient à s'imposer comme force de gauche et non du centre. Si le RN a fait ce score, en tout cas, c'est bien la faute de Macron et ses sbires qui leur préparent le terrain depuis deux mandats avec leurs discours et lois anti-immigration, leur chasse aux pauvres sur l'assurance chômage, le RSA, les retraites. Et c'est aussi grâce à leurs chiens de garde dans les médias. Donc Tagadet, la première plateforme de veille média, a fait un classement des 21 candidats aux européennes en fonction de leur médiatisation. Et sans surprise, Jordan Bardella a été le plus exposé avec 17 309 mentions. Donc c'est sur un échantillon de publications de presse écrites, imprimées en ligne, chaînes de télé, radio. Voilà, donc face à l'extrême droite aux portes du pouvoir, on appelle à déjà deux rassemblements ce soir. Il y en a un à 19h place des Terreaux et un à 20h place de la République.
Et on vous en voudra pas si vous coupez votre radio, parce que vous pourrez nous réécouter sur notre audioblog du Canus Info, ou demain matin à 8h, il y a une rediffusion, donc vous pouvez éteindre votre poste, on vous en tiendra par rigueur. Mais on passe tout de suite à l'actualité internationale avec la démission de Benny Gantz.
Voilà, alors une toute petite brève, alors qu'Israël se félicite depuis ce week-end de la libération de 4 otages en ayant tué 274 Palestiniens. De son côté, le ministre Benny Gantz, qui est un ministre sans portefeuille mais ayant rejoint le gouvernement élargi au début de la guerre, a annoncé sa démission. Il avait posé un ultimatum à Netanyahou, l'exhortant à penser à la responsabilité d'Israël sur la situation de Gaza pour l'après-guerre, ce à quoi ce dernier n'a pas donné suite, prouvant encore une fois que son seul objectif est de tuer et détruire toute forme de vie et de société palestinienne. Dans le reste du monde, les rassemblements de soutien à la Palestine continuent, et notamment aux États-Unis, où des milliers de personnes ont déployé autour de la Maison-Blanche une banderole comportant les noms de 40 000 Palestiniens tués par Tsahal.
Et sans plus de transition, on va passer au niveau du national, où ça se mobilise aussi contre la 69.
Et oui, ce week-end, grosse mobilisation contre la 69. Hein, on rappelle rapidement ce que c'est que ce grand projet inutile. La 69, c'est la future autoroute qui devrait relier Castres à Toulouse. Le coût de ce bien beau chantier s'élève à 450 milliards d'euros. Principalement apporté par des entreprises privées, et toutes ces sociétés capitalistes qui filent donc de la maille sont évidemment investies d'une mission humaniste pour sauver les pauvres habitants tout enclavés dans leurs collines et qui ont donc très 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 besoin de cette autoroute. Leur philanthropie est telle qu'ils proposeront ce tronçon qui fera gagner en moyenne une vingtaine de minutes aux habitants pour la modique somme de 16,80 € l'aller-retour. Et oui, ma bonne dame, le temps, c'est de l'argent. On ne fait pas du social chez les grands bétonneurs. Alors, au menu également de ce bien beau projet, des expropriations à tout va, puisque 230 hectares de terres agricoles vont disparaître. On ne fait pas non plus dans l'écologie, puisque l'autoroute a déjà provoqué l'abattage de plusieurs arbres centenaires. Elle va traverser 32 cours d'eau et empiéter sur le territoire de centaines d'espèces protégées. Bref, encore un projet bien écocide et bien antisocial. Ce week-end, donc, des milliers de personnes se sont réunis pour protester contre ce méga projet, éventuellement ralentir le chantier par divers moyens. Alors évidemment, les manifestants ont été stoppés net par un dispositif policier de malade, lacrymo dans tous les sens, et le grand retour des GM2L qui avaient fait tant de blessés à Sainte-Soline. Bilan, une quarantaine de blessés, dont trois blessures graves qui ont entraîné des hospitalisations. Les flics ont tiré sur des medics en plein soin, ils ont empêché les ambulances de passer. Des pratiques toujours aussi dégueulasses et dangereuses, mais qui semblent désormais bien installées. Dimanche, ils sont même allés jusqu'à récupérer les vêtements d'une femme de 55 ans, hospitalisée avec une fracture ouverte. Bref, on espère que la répression ne fera pas plier les opposants locaux qui ont encore fort à faire pour enfin faire cesser ce projet écocide.
Et toujours au national, une grève de dockers.
Et oui, parce que même si ça paraît trop loin maintenant, vous vous souvenez de ce mouvement contre les retraites qui a si fort mobilisé l'année dernière, pourquoi pas une mobilisation maintenant? En tout cas, dans certains secteurs du travail, la mobilisation, elle n'a pas fléchi, et la grève, ça reste un outil de lutte, notamment chez les dockers et les travailleurs portuaires, qui du coup, après des échecs de négociations suite au mouvement des retraites de l'année dernière, continuent de bloquer et ont annoncé 14 journées de grève durant tout le mois de juin. Donc une activité fortement perturbée dans les ports français. Donc les dockers et portuaires sont en lutte depuis février pour échapper aux 2 années de travail supplémentaire imposées par la dernière réforme des retraites. Donc comme les négociations entreprises avec le gouvernement n'ont pas marché, la fédération CGT des ports a appelé fin mai à 14 journées de grève tout au long du mois. Donc 10 jours rythmés par des arrêts de travail de 4 heures, 3 journées de grève de 24 heures, c'est très structuré, et une journée dite de port mort, ça c'était vendredi dernier, le 7 juin. Il y a eu une énorme grève de 24 heures qui a été suivie par des blocages des ports. Il faut savoir que la CGT Port et Dock, elle a accueilli à peu près 80% des suffrages aux élections professionnelles, donc elle a un très fort pouvoir de blocage, et ce pouvoir elle l'utilise, et ça fait que ça fonctionne, puisque vendredi dernier, le port du Havre était complètement à l'arrêt. Une centaine de dockers ont aussi bloqué l'accès au quai à Rouen et globalement, les activités portuaires étaient arrêtées en France sur toute une journée. Cette grève qui du coup va être perlée sur tout le reste du mois de juin, elle continue. Sur tous les dockers, ils ont dit, eh ben, on va pas s'arrêter. On va continuer à lutter pour la reconnaissance de la pénibilité de notre travail et on va pas plier face à cette réforme des retraites. Moi, je trouvais que c'était aussi un petit message d'espoir pour les autres corps de métier. On peut continuer à se mobiliser et ensemble, ça marche de continuer à bloquer et on leur souhaite bonne lutte et évidemment une victoire.
Et pour finir, un petit point d'actualité sur la mort de Steve.
Oui, rapidement, a aujourd'hui débuté le procès du commissaire responsable des opérations de police lors de la mort de Steve à Nantes le 21 juin 2019. Alors rappelez-vous, le jeune homme était tombé dans l'eau lors d'une charge policière autour de 4h du matin. On reviendra sur le procès dans les semaines qui viennent. Mais on voulait parler un petit peu de ce commissaire Grégoire Chassin qui comparaît donc cette semaine et qui est aussi connu pour avoir porté un déguisement raciste, pour son engagement traditionnaliste pardon, et ses prises de position violentes et autoritaire. Eh bien, petite info qui fait plaisir, figurez-vous qu'il a été promu le 1er juin chef de circonscription de la police nationale de Lyon. Voilà, ah, you. Bienvenue Grégoire.
Voilà, et c'est fini pour les news, mais on a tout de suite un petit dossier sur les JO. On va faire entrer nos invités et pendant ce temps, vous allez écouter Clit Click d'Air Féministe. Ich bin der Feminist, Feminist, Feminist.
Ich bin da, ich will Feministinnen ficken, deshalb bin ich feministisch, Feminist. Ich bin da, zwei Aussagen gegen eine, das Leben ist nicht fair, Feminist. Ich bin da, ich will meine Eizellen teuer online verkaufen, obwohl sie nicht in der Kühlkette waren, Feminismus. Ich bin da, ich mach alles, aber werd offiziell nie erwähnt, Feminist. Ich bin da, geh halt die einzige Frau im Wahlkampf wählen, Feminismus. Ich bin da, Frauen machen mein Club-Co dauernd kaputt, Feminist. Ich bin da, niemand will dich ficken, Reverse Psychology, Feminist. Ich bin da, trag mein Kind aus und vielleicht hol ich's irgendwann ab, Feminismus. Ich bin die Kompetenz, ist nicht gegen schöne Haare, Feministin. Ich bin der PMS, ist ab jetzt ein wichtiger Teil deines Lebens, Feminist. Ich bin da, alle Frauen sollen gleich ausschauen, wenn sie nackt sind, Silikonimplantat, Feminismus. Feminismus, ich bin der Feminist, Versace, Hipster, Nouveau Riche. Ich bin der, Frauen müssen angezogen sein im Pornos und miteinander reden über irgendetwas anderes als Männerfeminist. Ich bin der Feminist, aber dann hab ich mir die Beine abrasiert und Coco Chanel ins Gesicht geschmiert und auf der Akademie studiert. Ich bin der Binnen-I, B-I-N-N-E-N-I, Binnen-I. An alle Hörerinnen, lasst euch nicht sprachlich ignorieren. Hört auf, Artikel unreflektiert zu konsumieren. Die Sprache ist die Waffe, unser Rap ist so abturn, dass unsere, eure Penisse abfallen. Ich bin der Feminist, 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 F-E-M-I-N. Alle müssen, keiner will. Feminismus. Feminismus. Alle müssen, keiner will. Feminismus. Alle müssen, keiner will. Feminismus. Feminismus. Feminismus.
Et voilà, de retour en direct dans les studios. On va se lancer dans notre grand dossier sur les JO. Et on a la chance, pour commencer, d'avoir en studio trois personnes qui font partie du collectif des débuteuses et avec qui on va pouvoir discuter.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre venue. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est les débuteuses, ce que vous faites, ce que vous proposez ?
Bonsoir. Alors, les débuteuses, c'est une association qui a été créée en 2017 par des personnes qui, justement, en avaient un petit peu marre du foot institutionnel tel qu'on le connaît et qu'on le voit tous les jours. Et le but, c'était de proposer un cadre inclusif, militant, anti-racisme, anti-homophobie, anti-sexisme, etc. Et de créer un cadre safe et bienveillant pour tout le monde, y compris des personnes qui ne faisaient plus ou de sport à cause justement de ces institutions qui sont homophobes, transphobes parfois et des cadres qui ne sont pas toujours bienveillants. Et le but, c'était de proposer des entraînements pour toute personne, à tout niveau et dans la bienveillance pour qu'on puisse voir le sport autrement et évoluer dans un cadre cool, chouette. Voilà.
Merci les Debs.
Oui.
Alors je crois qu'on a quelqu'un qui est nouvellement arrivé aux débuteuses. Tu peux peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe concrètement, les entraînements c'est quand ?
Oui, du coup moi je suis arrivée à la rentrée en septembre-octobre. Et du coup, les entraînements sont tous les mardis de 17h45 à 19h45. Donc, on a un créneau de 2h à la plaine des Jeux de Gerland sur un terrain synthétique, un demi-terrain, juste pour nous. On peut venir quand on veut, on peut venir soit à l'heure, soit en retard. Souvent, il y a une partie entraînement au début qui est autogérée donc par les membres du groupe. Et la dernière heure, c'est plutôt une partie match. Il y a parfois des... Je crois que maintenant, on a organisé un mardi par mois où c'est que des matchs aussi. Et souvent, à la fin, il y a une troisième mi-temps où après, on peut aussi passer du temps pour boire des coups, discuter, parler politique, enfin faire plein de choses.
Alors justement, quand vous parlez politique, nous, on se demandait, puisque c'est une émission spéciale JO, qu'est-ce que ça soulève comme question parmi les débuteuses, les Jeux Olympiques, qui est quand même un événement sportif mondial dont on parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous en pensez ?
Alors effectivement, les JO, ça a soulevé énormément de questions et parfois c'est difficile de choisir quelles questions creuser. Et au sein des débuteuses, il n'y a pas une vision unique ou un avis unique sur là où les questions. Après, c'est vrai qu'on partage énormément de valeurs, mais à travers nos différentes sensibilités, nos expériences, etc., on ne va pas être touché de la même façon par toutes les questions. Peut-être qu'on va être touché par toutes les questions, mais pas dans le même ordre. Donc c'est important de mettre en avant que tout a de l'importance, que ce soit le côté impact environnemental qui est très inquiétant, ou bien le côté main-d'œuvre avec les sans-papiers dont les droits ne sont pas respectés, l'aspect non-inclusif avec une fois de plus les femmes voilées qui sont ciblées. Donc voilà, ça soulève vraiment beaucoup de questions et d'inquiétudes. Et c'est vraiment dommage puisque pour nous, c'est pas du tout l'esprit sport.
Ok, donc on comprend que vous n'avez pas en tout cas de position unique, enfin de position des débuteuses sur les JO. Et je crois que c'était le cas sur, par exemple, la Coupe du Monde du Qatar. Vous aviez écrit un communiqué, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ?
Effectivement, alors pour la Coupe du Monde au Qatar, il y avait eu un appel au boycott qui avait été décidé du coup par l'ensemble de l'association, face, on le sait tous et toutes, aux conditions atroces dans lesquelles s'est déroulée cette Coupe du Monde et s'est organisée cette Coupe du Monde. Pour les JO, ça a été un petit peu différent dans le sens où les problématiques sont pas les mêmes, déjà en premier lieu. En plus de ça, il y a eu énormément d'actualités avec ce qui se passe en Palestine ou autre, sur lesquelles on a débattu. Et donc forcément, pour les JO, s'en est découlé le libre arbitre de chacun et chacune. Et voilà, c'est encore en réflexion. On admet aussi de pas toujours savoir exactement comment se positionner et d'avoir des avis qui sont pas unanimes. Donc voilà, il y a des personnes dans l'association qui vont boycotter ces JO. Il y a des personnes qui le feront pas et qui iront voir les événements. Donc voilà, mais on en discute avec plaisir lors des troisième mi-temps.
Ouais, et puis comme on le disait tout à l'heure, les JO, ça soulève vraiment énormément de questions, donc c'est difficile de faire un communiqué qui rassemblerait tout, alors que le Qatar c'était assez ciblé sur certains domaines spécifiques. Là, la France, bon, on a des attentes différentes, c'est pas le Qatar, mais la France qui est connue comme étant le pays des droits de l'homme par beaucoup à l'international, donc forcément énormément de déceptions.
Et peut-être pour terminer, une double question, c'est comment est-ce que vous, du coup, en pratique, vous mettez en place un sport plus inclusif, qui prend en compte ces questions politiques que vous avez citées, de lutte aussi contre les discriminations, que ce soit l'homophobie, le racisme, et peut-être nous le présenter à travers vos prochaines actualités ou vos engagements récents ?
Oui. Déjà, il y a un truc autour de la compétition. Du coup, on a organisé un tournoi il y a 2 semaines à Lyon, où on a invité les gens à venir jouer au foot dans des équipes mixées, inter-équipes, et où voilà, on n'était pas obligé d'appartenir même à une équipe pour jouer. Et à la fin, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de match final. L'idée, c'est surtout de jouer ensemble et après de faire la fête. C'était aussi un tournoi où on reversait les fonds à du coup des familles palestiniennes par l'intermédiaire d'un photographe amoureux qui est aussi en lien avec des personnes de l'équipe, et une partie d'argent aussi à IDIR Espoir Solidarité, qui est une asso qui lutte contre les violences carcérales. Donc il y a aussi la dimension antiraciste et contre les violences d'État. Et on va participer, enfin, donc on organise, et aussi des fois on va participer. Là, on va participer le 29-30 à un tournoi à Genève, un tournoi antiraciste. Et j'ai oublié le dernier truc que je devais dire.
C'est déjà pas mal. Venez nombreux et n'hésitez pas à venir nous voir aussi aux entraînements. Vous n'êtes pas obligés d'avoir une sorte de fréquence hein, de visite hein. Ça peut être une fois par-ci, une fois par-là. On est toujours ravis de faire de nouvelles rencontres, ce qui est aussi l'objet de ce type de tournoi.
Oui, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus nombreuses. C'est toujours possible de vous rejoindre.
Tout à fait. Oui, il faut soit nous contacter sur Insta, soit directement sur les réseaux, en fait, par mail. Et c'est important de dire qu'on n'a pas besoin de s'inscrire, on n'a pas besoin de montrer de carte d'identité, on n'a pas besoin de payer. Enfin, il n'y a vraiment aucun... On vient, on n'a même pas besoin d'avoir de chaussures de foot. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez pratique, je trouve. Et appel ouf.
Ah bah vas-y. Et du coup, oui, il y a aussi là quelque chose qui nous réunit tous et toutes, c'est l'appel au vote, du coup, pour les prochaines élections. Alors, c'est tout récent, mais il y a déjà un consensus qui s'est formé autour de l'association pour voter massivement et inciter à voter massivement aux prochaines élections législatives du 30 juin et 7 juillet, si je dis pas de bêtises, parce que ça nous paraissait évident de devoir se mobiliser tous et toutes ensemble contre ce qui se passe.
Eh ben merci beaucoup du coup pour l'entretien. En tout cas, nous, on l'a dit en début d'émission, on appelle évidemment au rassemblement qui a déjà commencé la place des terreaux depuis 19h, et évidemment un deuxième rassemblement qui a lieu à 20h place de la République, ou en tout cas à visibiliser l'horreur qu'est la montée du fascisme actuellement en France et en Europe, effectivement, avec les moyens qu'on peut avoir. Merci beaucoup d'avoir pu introduire ce dossier sur les JO, qu'on espère qu'ils ne vont pas s'ouvrir du tout, en tout cas qu'ils ne vont pas s'ouvrir avec un parlement fasciste. Et on pourra évidemment retrouver vos contacts sur la page de notre blog. Et sinon, j'imagine que si on tape les débuteuses sur Instagram,
Infos apparaissent. Et merci à vous de nous avoir reçus.
Et ben merci les débuteuses pour cet exemple, cette proposition d'alternative au sport compétitif traditionnel. On continue tout de suite notre dossier sur les JO en nous intéressant à des associations qui militent à Paris contre les conséquences des JO. On écoute tout de suite.
Aujourd'hui, on reçoit Aurélia Huot, qui est en charge du Barreau de Paris Solidarité et qui est membre du collectif Le Revers de la Médaille. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Okay.
Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous présenter un peu le collectif Le Revers de la Médaille dont tu fais partie ?
Oui, alors c'est un collectif qui s'est créé au mois d'octobre 2023, qui regroupe, au départ on était 70, aujourd'hui on est plus d'une centaine, et donc ça regroupe des associations, alors des grosses assos un peu institutionnelles comme Médecins du Monde, le Barreau de Paris Solidarité, Action contre la faim, mais aussi des associations plus de terrain, comme la Chorba, Tendre la Main, Dom Asile, le Comed. Et alors en fait, le point commun de toutes ces assos, c'est qu'elles accompagnent des personnes en précarité. Elles ont commencé à se réunir au printemps, après avoir constaté une accélération dans les expulsions des lieux de vie informelle notamment, et en particulier l'expulsion d'un des plus gros squats de France qui s'appelle le squat Unibéton, qui a été évacué au mois d'avril 2023. Et qui était juste à côté du village olympique. Mmh. Et donc, au printemps 2023, on commence à avoir ces accélérations d'expulsion de lieux de vie informels. Et donc, il y a eu des interorgas qui se sont regroupés et on a décidé de former ce collectif pour interpeller les pouvoirs publics et alerter l'opinion publique sur le nettoyage social qui était en train d'être amorcé sur le territoire parisien et en Île-de-France.
En lien, évidemment, avec les Jeux Olympiques qui arrivaient.
Évidemment. En fait, on voulait interpeller et puis on voulait aussi proposer des solutions parce qu'on avait l'impression vraiment que les pouvoirs publics n'étaient pas prêts et ne proposaient pas de solutions à ces publics qu'on voyait être évacués de l'espace public. Et on s'est dit, concertons-nous, interpellons les pouvoirs publics et proposons des solutions pour qu'il y ait une prise en charge de ces publics avant les JO et pendant les Jeux Olympiques.
Et du coup, une des choses que vous avez faites, c'est de publier un rapport qui est intitulé « Un an de nettoyage social avec les JOP 2024 ». Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous parler de la façon dont il a été rédigé, peut-être avec quels acteurs vous l'avez construit ?
Oui, alors en fait, c'est un rapport qui a été basé sur l'analyse de données recueillies par toutes les associations de terrain du collectif. Alors c'est des données qualitatives et quantitatives. Donc quantitatives parce qu'elles sont collectées par les organisations dans le cadre du recensement des expulsions, des maraudes, des évacuations, et qualitatives parce qu'on a aussi énormément de témoignages qui sont recueillis sur le terrain par les personnes, les travailleurs sociaux. On a aussi analysé des documents officiels qui étaient publiés. Il y a eu énormément d'arrêtés d'expulsions publiées, donc on en a fait des analyses juridiques. On a aussi des chiffres de l'Observatoire des expulsions de vie informelle qui recense depuis 2018 toutes les expulsions de lieux de vie, donc c'est informel, donc on parle de bidonvilles, les squats, les regroupements de tentes, etc. Et on a travaillé aussi avec des chercheuses du collectif Accès au droit, qui est un observatoire des expulsions des campements de personnes exilées à Paris. Donc en fait, c'est vraiment l'analyse de toutes ces données de terrain et de documents officiels qu'on a compilé dans ce bilan. Et là, ça fait une semaine que le rapport est sorti et c'est des chiffres qui ne sont pas contestés ni par l'État, ni par la ville de Paris, ni par aucun pouvoir public. Hein.
Le rapport, il fait presque 80, il fait 80 pages, je crois. Est-ce que tu peux essayer quand même de nous faire une petite synthèse des éléments remarquables que vous avez pu noter avec toutes vos données ?
Oui, alors je vais essayer de faire le plus synthétique possible, mais déjà pour vous donner un peu une vue d'ensemble du rapport, on l'a découpé un peu en fonction des publics et des constats qu'on faisait sur le territoire. Donc on a une grosse partie sur les expulsions des lieux de vie informels, des bidonvilles, des campements de personnes exilées. Donc entre 2023-2024, on a recensé 138 expulsions en Île-de-France, 64 bidonvilles, 34 expulsions de regroupement de tentes, 7 expulsions de personnes du voyage. Et tout ça, ça représente plus de 12 500 personnes et une augmentation de 38% par rapport à la période précédente. En fait, on voit quand même dans les données chiffrées qu'il y a une nette augmentation des expulsions des personnes exilées sur le territoire parisien et en Ile-de-France. À ça s'ajoutent les expulsions des campements de rue. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui sont en situation de rue. Donc ça va être la personne sans abri en bas de chez soi qui est là dans la rue depuis plusieurs années. Il y a une accélération aussi des évacuations de ces personnes sur le territoire. Ce qu'on peut noter, c'est que il y a des expulsions et des évacuations qui sont faites à la suite de prises d'arrêtés préfectoraux. On voit une augmentation de la prise d'arrêtés préfectoraux. Il y en avait eu deux entre 2021 et 2024, et il y en a huit là depuis le mois de février. Donc en fait, c'est quand même des accélérations très notables en termes de chiffres et de prises d'arrêtés pour évacuer les personnes. Et après, alors peut-être qu'on reviendra un petit peu dans le détail, mais on constate aussi des évacuations qui sont faites en dehors de tout cadre légal. Et le point commun vraiment qu'on veut mettre en avant de toutes ces évacuations et de déplacement des personnes, c'est qu'il n'y a aucune prise en charge qui est proposée aux personnes qu'on déplace. Alors, ou on les déplace sur l'espace public et en fait, les personnes changent d'endroit sur les territoires, ou alors on les éloigne de Paris. Et ça, je pense plus particulièrement aux personnes exilées. On a mis en place des SAS, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais l'objectif du gouvernement, c'était de désengorger Paris et d'envoyer ces personnes dans d'autres structures en dehors de Paris pour des prises en charge en région, sauf qu'en fait, on constate dans les faits qu'il y a plus de la moitié des personnes qui sont envoyées qui ne sont pas prises en charge.
Et sinon, on peut aussi parler du fait que ces déplacements de population, c'est pas nouveau dans l'histoire des JO et c'est pas spécifique à Paris. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez constaté en faisant vos recherches.
Ouais, c'est pas du tout un phénomène nouveau dans le cadre de l'organisation des JO. On l'a vu en Chine, à Vancouver, à Rio. On en parle un petit peu dans le début du rapport. En Chine, à Pékin, enfin à l'intérieur de Pékin, c'était plus de 1,2 million de personnes déplacées. C'est des milliers de personnes déplacées aussi à Rio. L'idée étant de faire place nette dans les centres urbains pour éloigner les personnes considérées comme indésirables de l'espace public. Et donc nous, on a noté ce phénomène de double dispersion. Donc c'est et évacuer l'espace public parisien des personnes les plus précaires et les éloigner en les amenant en région et en dehors de l'Île-de-France.
Tu nous parlais tout à l'heure des populations exilées. Est-ce que vous avez noté des atteintes aux droits pour les personnes en situation d'exil? Est-ce qu'il y a des spécificités quant à ces déplacements?
Oui, alors j'en parlais un peu tout à l'heure. Il y a eu la mise en place de SAS, qui sont donc de 10 SAS partout en France, qui sont un peu des structures, des dispositifs de desserrement de l'agglomération parisienne. Et l'idée mise en place était d'envoyer des personnes exilées et sans-abri dans ces structures pour qu'elles puissent être prises en charge. Alors, dans l'idée, pourquoi pas, sauf qu'en fait, c'est fait de manière non diagnostiquée. Donc, en fait, on envoie des personnes dans ces structures. À l'arrivée, il reste 3 semaines et il y a plus de la moitié des personnes qui sont envoyées qui, à la fin, sont remises à la rue, soit parce que leur situation ne correspond pas à la structure de prise en charge dans laquelle ils sont envoyés, ou alors parce qu'il n'y a pas de place. Donc en fait, on éloigne les personnes, et les personnes exilées en particulier, de la région parisienne pour les envoyer très loin, et la plupart reviennent, puisqu'en fait, ils sont envoyés à Rouen ou en banlieue de Lyon, et que ils sont loin de leur communauté, du tissu associatif, et que c'est très compliqué pour eux. Il y a ça, et il y a aussi le mode opératoire d'évacuation ou des squats ou des campements. Il faut aussi voir comment ça se passe, c'est-à-dire que les forces de l'ordre arrivent à 6h du matin. Il faut récupérer toutes ces affaires. Alors dans les squats, ça fait des années que ces personnes ont établi un lieu de vie, hein, donc il faut tout mettre dans une valise du jour au lendemain, il faut partir, et c'est fait sans proposition d'hébergement pérenne. Donc en fait, c'est des personnes qui se retrouvent complètement à la rue. Donc nous, on voudrait pas que ces personnes restent à la rue, mais ce qu'on veut, c'est qu'on leur propose un hébergement, qu'ils puissent y rester et qu'ils puissent reconstruire leur vie.
Alors, une autre catégorie de personnes qui sont considérées comme indésirables dans la rue, surtout en ce moment, donc à la veille des JO, c'est les travailleurs et les travailleuses du sexe. Et dans votre rapport, vous parlez d'une forme de harcèlement. Est-ce que tu veux bien développer un petit peu ?
Oui, tout à fait. Et alors, en fait, depuis donc nous, Barreau de Paris Solidarité, on a des partenariats avec des associations comme la MIST, qui accompagne des femmes victimes de traite, et Accès Testé ou Aide, qui accompagne les travailleuses, travailleuses du sexe. C'est vraiment, il y a un enjeu de terminologie, puisque les publics et les enjeux sont pas les mêmes. Donc on parle de femmes victimes de traite du commerce du sexe pour Vincennes, donc qui sont des femmes nigérianes qui sont dans le bois de Vincennes et qui sont suivies par la MIST et qui sont majoritairement victimes de traite. Et sur le reste du territoire, dans notre rapport, on parle de travailleuses, travailleurs du sexe, ce qui n'exclut pas que il y ait des victimes de traite parmi les travailleuses du sexe dont on parle sur le reste du territoire. Et donc le point commun de toutes ces associations, et c'est pour ça qu'elles se sont regroupées au sein du collectif, c'est qu'on a remarqué depuis le printemps 2023 une augmentation vraiment très significative de contrôle de situation administrative des femmes. Et alors à Vincennes, ça se matérialise par la venue de policiers accompagnés d'agents de la préfecture pour contrôler les situations administratives des filles. Ces contrôles se font de plus en plus brutalement, c'est-à-dire que, alors au départ, elles sont liées, elles couraient dans les bois, elles avaient les jambes écorchées, donc elles sont arrivées plus tard pour éviter les contrôles. Maintenant, elles se cachent dans les camionnettes, sauf qu'en fait, maintenant, la police ouvre les camionnettes de force et sort les filles en sous-vêtements pour les emmener en rétention sans leur permettre de se rhabiller. Donc ça a été un peu de plus en plus brutal. Ben, au final, nous, ces filles, elles sortent de nos dispositifs parce qu'en fait, elles ne sont pas là pendant nos horaires de maraude, ce qui rompt le lien. Et donc, ça a des conséquences en termes de santé, en termes d'accès aux droits, de lien social. C'est exactement la même chose qu'on remarque sur les travailleuses, travailleurs du sexe sur le reste du territoire. À Belleville, alors, on a des données un peu chiffrées, hein, à Vincennes, en l'espace de quelques mois, il y a eu 203 personnes contrôlées, 37 obligations de quitter le territoire. Et à Belleville, c'est 112 personnes, aussi plus d'une trentaine d'obligations de quitter le territoire délivrées à des femmes qui sont déjà en situation de précarité, qui sont déjà fragilisées. Et donc, il y a une véritable criminalisation de ces femmes et des publics précaires de manière générale.
Oui, ben justement, est-ce que pour vous, vous l'analysez comme ça, les JO deviennent un argument pour tout un tas de mesures sécuritaires qui viennent en plus précariser des populations déjà largement exclues ?
Ah ben absolument, et c'est vraiment ce qu'on constate, c'est-à-dire qu'il y a des augmentations d'amendes, d'arrestations de vendeurs à la sauvette, et là on commence à voir dans les tribunaux des condamnations, des peines assorti à des condamnations d'interdiction de paraître sur le territoire parisien pendant les JO, par exemple. Donc, en fait, il y a une vraie volonté et une politique pénale qui va se mettre en place pour vraiment exclure du territoire les personnes en les stigmatisant encore un peu plus et en les criminalisant alors qu'elles sont déjà hyper précarisées et fragiles.
Oui, alors juste peut-être pour finir, je cite un passage de votre rapport. Il y a eu une circulaire du ministre de la Justice qui incite donc les juridictions à mettre en place une politique pénale déterminée prévoyant des réponses rapides, fortes et systématiques à l'ensemble des infractions pénales ayant pour objet ou pour effet de troubler le bon déroulement. Et ça, c'est justifié par l'idée que l'arrivée des JO entraînerait une hausse de la délinquance sur le territoire, alors qu'a priori, c'est pas forcément le cas, il n'y a rien qui l'indique. Mais en tout cas, il y a une justice plus expéditrice qui se met en place.
Ah ben oui, et puis il y a une politique, un plan de zéro délinquance qui est déployé par les préfets. L'objectif, c'est vraiment de faire place nette. Les audiences de comparution immédiate vont être doublées, voire triplées. Les effectifs de magistrats sont décuplés pendant la période des JO, et pour les mineurs et pour les majeurs. Donc nous, ce qu'on craint, c'est effectivement une justice expéditive, 100 ans de préparation pour la défense, une criminalisation des personnes qui ne l'étaient pas depuis le départ, et vraiment dont l'objectif serait de nettoyer complètement Paris et d'éloigner, quitte à incarcérer les personnes qu'on considère comme n'ayant pas leur place sur l'espace public.
Peut-être juste pour terminer, donc là vous avez effectivement publié ce rapport, mais vous avez aussi mené d'autres types d'actions. Tu peux nous expliquer un peu comment vous fonctionnez et comment vous essayez de lutter à plusieurs niveaux?
Oui, nous, donc pour interpeller les pouvoirs publics et l'opinion publique, on a mené déjà 6 actions d'interpellation. La première, c'était au mois d'octobre 2023. On a affiché sur le COJO avec un laser un message d'alerte sur les nettoyages sociaux. Et voilà, on en a réorganisé à peu près tous les 2-3 mois. Donc ça a pris plusieurs formes. C'est des actions d'interpellation qui sont plutôt festives. On a sur les marches du Sacré-Cœur, on a avec les couleurs des Jeux Olympiques, mis la peinture sur des banderoles avec des mots qui portaient les mots solidarité, précarité, pour dire que les JO recouvrent justement tous ces indésirables et toute cette précarité dont on devrait s'occuper plutôt que de la cacher. Et en fait, à chaque fois, nos actions ont des messages pour interpeller les pouvoirs publics. La dernière, ça a été une opération où on a collé 3000 affiches dans Paris pour dénoncer le nettoyage social et faire du clean tag. Donc le clean tag, c'est au Karcher, on inscrit des messages dans les saletés du trottoir pour interpeller l'opinion publique et demander des solutions. Et donc on a ces actions d'interpellation, mais on a aussi un plaidoyer de solutions. Et en fait, à chaque fois, on tient une conférence de presse et on demande des rendez-vous avec les ministères. Alors le COJO, on a arrêté d'aller les voir parce qu'on avait demandé un fonds de solidarité olympique pour justement prévoir des hébergements, la prise en charge des tickets de transport, la garantie de la poursuite des soins des personnes pendant les JO. Alors, on n'a pas obtenu tout ce qu'on avait demandé, mais à chaque fois, on vous lance des propositions pour que les pouvoirs publics puissent s'en saisir. Et nous, on ne fait pas que dénoncer, on propose aussi des choses.
Eh bien, merci beaucoup. On peut vous suivre sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, Le Revers de la Médaille. Vous avez aussi un site internet. Le rapport, on peut le retrouver sur votre site, il me semble.
Absolument.
Pour celles et ceux qui voudraient aller un peu plus loin. Et on te remercie en tout cas du temps que tu as pris pour nous donner toutes ces infos. On n'hésitera pas à transmettre les différents rendez-vous s'il y en a dans les semaines à venir.
Super. Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez toujours le Canus Info sur Radio Canu. On est dans un dossier Jeux Olympiques, mais on fait un petit flash info par rapport au rassemblement. Par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale
et contre l'extrême droite.
La petite info, c'est que le premier rassemblement qui était à Hôtel de Ville part en sauvage en direction de République. Du coup, on vous invite, si vous n'êtes pas encore au rassemblement, à aller directement à République ou à rejoindre la manif sur son parcours. En attendant, on continue. On va vous proposer une petite lecture d'un livre de Jade Lingard, qui est une journaliste qui travaille à Mediapart. Elle a écrit un livre sur les conséquences des JO Paris 2024. On écoute ça tout de suite.
Paris 2024, une ville face à la violence olympique. Un livre écrit par Jade Lingard. Chapitre 5. Extractivisme olympique. Depuis le début des années 2000, des mouvements de défense des terres agricoles, de forêts et de rivières ont forgé la notion d'extractivisme pour décrire les industries qui détruisent les écosystèmes pour extraire du sol des matières premières qui font ensuite leur richesse. Pétrole, gaz, minerais, bois, destinés à la construction ou à la production d'énergie, sable et même eau utilisée par les industries agroalimentaires. Au-delà de la prédation d'espaces naturels qui sont aussi des milieux de vie, de travail et de croyances, ce qui caractérise l'extractivisme est que les forages ou mines incriminées captent les ressources de façon irréversible. Une fois lancée, l'extraction de ressources minières peut être très rentable. Au fil des ans, les investissements du départ s'amortissent et la vente des ressources minières rapporte de plus en plus. Dans bien des conflits environnementaux, les opposants opposantes au projet extractiviste font face à de violentes formes de répression. Dans les pays du Sud global, ces opérations mettent en œuvre et accentuent des rapports coloniaux d'exploitation. L'extractivisme est en ce sens à la fois une manifestation du capitalisme globalisé et une extension de son champ d'influence. Quel rapport avec les Olympiades en Seine-Saint-Denis ? L'extraction de valeurs pompées du sol par les innombrables grues des chantiers olympiques, dopées par le grand récit de la fabrique d'une ville nouvelle et par les finances publiques. La disproportion des moyens employés entre d'un côté les habitants-habitantes délogés et de l'autre l'alliance de l'État et du capitalisme de l'immobilier par la grâce d'une opération d'intérêt national. Ce qui est construit pour les JO restera en place pendant des décennies. Ces aménagements pensés et voulus comme des archétypes de la modernité enferment les quartiers concernés dans un modèle inégalitaire et excluant. Celui d'une ville qui doit être rentable pour ses investisseurs avant d'être hospitalière et solidaire. C'est aussi un verrouillage car il ne pourra plus s'y passer autre chose. La place est prise, l'espace est occupé, la valeur créée par les opérations a été distribuée entre les investisseurs et le capital est déjà repartie ailleurs, vers d'autres territoires du Grand Paris ou de toute autre métropole en expansion. Vers les poches des actionnaires, des promoteurs et des investisseurs. La sociologue Saskia Sassen a recours à cette même image de l'extractivisme pour décrire les ravages que cause le développement de la finance dans l'immobilier. À ses yeux, cela décrit un modus operandi, unilatéral de capture de la valeur alors que l'accès à un logement décent est un droit humain fondamental. Dans le cadre des quartiers olympiques de Paris 2024, quatre phénomènes peuvent caractériser une forme d'extractivisme. En premier lieu, l'écart entre le total de ce qui est dépensé et le bénéfice direct qu'en retirent les habitants d'eux. Il y a 44 fois plus d'argent dépensé par personne pour le village olympique que pour la rénovation des quartiers populaires. À cela s'ajoute le fait que 15% seulement des TPE et PME du 93 bénéficient des chantiers olympiques et qu'on ne trouve qu'un nombre infinitésimal de résidentes en insertion sur les chantiers. Ensuite, le brutalisme. Énormément d'argent dépensé d'un coup dans un endroit qui en manquait cruellement, à un rythme effréné et dans une visée transformatrice de rupture. S'ajoute une logique non démocratique, accentuée par les délais très contraignants et non négociables de l'événement. Ne pas permettre aux habitants-habitantes de co-décider des aménagements à venir, ne pas tenir compte de leurs contre-projets, ne pas partir de leurs besoins exprimés, ne pas soumettre la candidature olympique à l'accord de la population, etc. Enfin, l'extraction d'une rente foncière potentiellement considérable, exacerbée par le marketing globalisé et une puissance de feu médiatique sans équivalent que l'État accompagne et encourage, à la fois sur le plan juridique et sur le plan financier. En regardant les publicités des programmes immobiliers de 2024, peuplés de personnages arborant tous les signes de la réussite sociale, vêtements, minceur, attitude, blanchéité, tout semble lumière, jeunesse et joie de vivre. Il faut fournir un petit effort d'imagination pour deviner sous les silhouettes fabriquées par l'intelligence artificielle, telles des remords enfouis sous les couches de peinture, les dérives invisibles de l'extractivisme olympique.
Voilà, après cette lecture, on va faire un petit point avec une envoyée spéciale au rassemblement qui est en train de se diriger vers le deuxième rassemblement à Manif Sauvage, vers République. Est-ce que tu nous entends ?
Eh bien, écoutez, il y a à peu près, il y a bien 800 personnes là. On est rue Herio, il y a de la musique de partout et des gens bien déterrés. On arrive dans pas très longtemps à République, et voilà. Et il y a du monde qui gueule des slogans antifascistes.
Très bien. Est-ce qu'on peut refaire un petit point à la fin de l'émission ?
Eh bien, tout à fait, pas de problème. On sera probablement arrivé au deuxième rassemblement. J'espère qu'on sera deux fois plus nombreux d'ici un quart d'heure et que les gens vont éteindre leur radio et venir nous rejoindre dans la rue.
Allez, à tout à l'heure.
Donc, à tout à l'heure.
On rappelle que, en effet, cette émission est réécoutable en podcast ainsi que sur le blog des Canus Info. Donc, vous pouvez vous rendre tout de suite au rassemblement. Et nous, on va continuer notre dossier par un sujet sur les conséquences des JO, notamment sur le logement.
On sait que les grands projets, les grands événements n'ont pas qu'un effet temporaire, mais viennent aussi accélérer et pérenniser des phénomènes déjà en cours. Ici, c'est la crise du logement et l'évincement des populations précaires qui va s'amplifier et s'inscrire dans la durée. Alors, comment les JO impactent-ils durablement l'accès au logement ? Dans une tribune parue dans Libération, nommée « Les JO 2024 ne doivent pas être le prétexte à l'expulsion abusive des locataires », la Fondation Abbé Pierre et des associations alertent sur les abus liés à l'événement. Elles évoquent notamment l'utilisation des congés ventes et reprises, qui permettent aux propriétaires de récupérer leur logement si il ou elle souhaite le vendre, l'habiter ou le mettre à disposition d'un ou d'une membre de leur famille. Ces procédures sont encadrées dans la loi, mais c'est à la charge du locataire de prouver qu'un congé vente ou reprise est illégal, par exemple en prouvant que le bien n'a pas été réellement revendu, mais placé sur une plateforme de location touristique. Dans cette tribune, les associations constatent qu'une grande partie des congés ventes ou des congés reprises ne sont pas valides. Dans le 93, en Seine-Saint-Denis, où auront lieu les JO, l'association Adil affirme même que 60% des congés ventes ou reprises sont frauduleux. Cela signifie que dans de nombreux cas, les propriétaires ne remplissent pas les conditions légales et les délais pour demander à leurs locataires de quitter le logement et que leur expulsion aurait dû être évitée. Et même quand les règles en amont de l'expulsion sont respectées, pas facile de savoir après si c'est vraiment pour vendre ou récupérer le logement ou pour le mettre en location touristique pour les JO. Et c'est pour cela que les sanctions pénales, donc des amendes ou des indemnités pour les locataires, ne sont presque jamais appliquées. En France, la location touristique, c'est déjà 800 000 annonces estimées en 2023. Et c'est au moins 3 ou 4 fois plus rentable que la location à l'année. Pour les JO, les bénéfices sont délirants, puisque des propriétaires vont jusqu'à louer entre 500 et 1000 euros la nuit pendant l'événement. Et donc, les grands événements comme les JO, c'est aussi énormément d'appartements qui sortent du marché de la location, et pas que pour les JO, mais de manière pérenne, puisqu'on se doute bien que les propriétaires ne vont pas gentiment remettre à la location à l'année des appartements qui leur rapportent beaucoup plus en location touristique. Un autre point qui joue dans la crise du logement et qui s'aggrave, c'est la réquisition des logements des étudiants et étudiantes. Donc ces logements, ils sont réquisitionnés pour héberger les personnels de sécurité, notamment la police, les pompiers, les agents publics et les bénévoles mobilisés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ils arriveront dans les appartements des étudiants dès le 20 juillet. Ce sont 12 résidences étudiantes qui ont été sélectionnées pour un total de 3200 logements réquisitionnés pour les JO. Ce sont donc au moins 1400 étudiants et étudiantes qui ont fait une demande de relogement pour l'été, mais mi-avril, ce sont seulement une centaine d'élèves qui avaient été relogés. Et donc les conséquences, elles sont graves pour les étudiants et étudiantes qui ne peuvent pas travailler l'été ou trouver un job étudiant, qui ne peuvent pas faire leur stage de fin d'études car c'est devenu impossible de se loger pour elles et eux à Paris. Et donc le Conseil d'État a été saisi face à cette situation, mais il a finalement validé cette décision en rappelant que les étudiants et étudiantes recevraient une indemnité de 100 euros et 2 places offertes pour assister à des épreuves olympiques. On a aussi une pensée pour celles et ceux qui vont devoir rentrer dans leur chambre de résidence étudiante après qu'un flic ait dormi dans leur lit pendant tout l'été. Apparemment, on peut donc réquisitionner des logements crous des étudiantes précaires pour les flics et les bénévoles des JO, mais pas pour loger les personnes sans abri. Et à propos de personnes sans abri, donc... Un dernier élément, c'est celui des sas de desserrement qui ont été mis en place dans différentes villes. Donc pour vider la ville des précaires, l'État a également mis en place 10 sas de desserrement dans différentes régions hors de Paris pour expulser les sans-abri. Et donc il est difficile d'avoir des données sur ces sas, mais on sait qu'ils y passent souvent quelques jours ou quelques semaines seulement avant d'être remis à la rue ou envoyés à la campagne, soit dans le dispositif d'accueil des personnes demandeuses d'asile, soit dans l'hébergement d'urgence. Et donc les personnes qui refusent l'orientation ou quittent le SAS, elles perdent leur ancienneté de leur demande d'hébergement, elles ne bénéficieront probablement jamais d'autres propositions. Et d'autres témoignages évoquent aussi des pressions pour faire des demandes d'asile ou la délivrance d'OQTF. D'après le GISTI, c'est à peu près 7000 personnes qui devaient être orientées dans ce SAS. Et en 2023, on estimait que c'était à peu près 5900, donc 6000 personnes qui avaient été prises en charge dans ces SAS en 2023. Et donc à Lyon, il y a un sas de desserrement. Il se trouve à Vaise, dans un ancien bâtiment de la SNCF qui est appelé Vaise 2. Donc avant, il y avait 2 centres d'hébergement dans cette zone, un qu'on appelait Vaise 1 et l'autre Vaise 2, qui était géré par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Et à ce moment-là, donc, VS2 abritait une dizaine de familles qui habitaient dans le centre depuis novembre 2022. Mais en mai 2023, la préfecture décide de récupérer VS2 pour y ouvrir le SAS d'accueil temporaire, donc le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, a refusé de gérer ce SAS, et c'est Adoma qui a été choisi pour ça. Et le foyer a dû reloger les familles qui avaient été mises à l'abri à VS2. Et en juillet 2023, c'est donc une trentaine d'hommes seuls et quelques familles, majoritairement d'origine afghane et soudanaise, qui sont arrivés en, au bus dans ce centre, qui dormaient dans des grands dortoirs où tout le monde était mélangé, et dont la majorité, d'après des témoignages des salariés, ressortait avec un papier et un billet de train pour un autre département. Un autre témoignage plus récent, d'il y a quelques semaines, parle de l'arrivée d'une douzaine de personnes, dont 6 auraient été envoyées dans la Loire, et les autres sont restées à Lyon. Mais bien sûr, ce n'est pas des nouvelles places d'hébergement qui sont ouvertes pour ces personnes, mais elles s'ajoutent aux listes d'attente et aux travailleurs et travailleuses sociales. C'est aux travailleurs et aux travailleuses sociales de leur trouver des places. Et à défaut de places dans des structures, la dette, donc, qui gère l'hébergement, valide la suroccupation à l'hôtel pour les déplacer de Paris, c'est-à-dire qu'on entasse les personnes arrivées de Paris, au mieux dans des hôtels, et sinon on les remet à la rue. Donc cette situation, elle évoque des pratiques déjà à l'œuvre dans le Rhône, où des familles se voient proposer des places d'hébergement en dehors de Lyon, notamment dans le cadre des expulsions, par exemple quand le squat Pyramide a été expulsé, ou quand le CCVA de Villeurbanne a été évacué alors qu'il était occupé par le collectif Solidarité entre femmes à la rue. Les femmes avaient reçu une cinquantaine de propositions d'hébergement pour 5 nuitées dans un hôtel à Belleville, mais le bus affrété par la préfecture pour les y emmener est reparti vide parce qu'elles ont toutes refusé. Et donc ces personnes, elles sont toutes contraintes de venir s'ajouter à celles qui attendent déjà un hébergement à Lyon, voire des fois elles leur passent devant, et à ce titre, une membre du collectif Solidarité entre femmes à la rue demandait récemment si, avec les JO, elle n'aurait pas intérêt à partir à Paris pour se faire envoyer dans le SAS et avoir une place d'hébergement à Lyon. On rappelle que cette situation s'inscrit donc dans une crise du logement qui ne va faire que s'aggraver, et qu'à Lyon, il y a déjà 14 000 personnes qui sont en attente d'un hébergement. Et donc pour finir, la défenseure des droits s'est saisie de la question et elle enquête sur ces deux pratiques, donc le déplacement des sans-abri et le déplacement des étudiantes. Et plus généralement, elle veut interroger aussi la liberté d'aller et venir dans le cadre des JO, l'utilisation de l'IA et la liberté de manifester.
Et on enchaîne sur un sujet sur les hormones dans le sport de compétition. Puisque dans le sport de compétition, et les JO ne font pas exception, c'est développé une sorte d'obsession de la féminité. Pour commencer d'abord, ce n'est qu'en 1928 que des épreuves féminines sont admises officiellement, dans cinq épreuves seulement. Et ceci donc malgré les réticences de Pierre de Coubertin à l'initiative des JO modernes, dont on connaît maintenant bien la citation « L'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'applaudissement féminin pour récompense ». C'est une citation de 1912. Et donc très vite se sont mis en place des tests pour vérifier la féminité des sportives. D'abord des tests gynécologiques, puis chromosomiques, puis génétiques. Et donc plusieurs fans se sont vus exclus des compétitions pour avoir des anomalies dans leurs chromosomes. On sait aujourd'hui que ces anomalies concernent au moins 2% de la population et remettent en question la binarité d'une biologie femme opposée à une biologie homme. Aujourd'hui, c'est une bien maigre avancée, on ne fait plus de tests génétiques. Car officiellement, on ne demande plus aux femmes de prouver qu'elles sont suffisamment femmes. Officiellement, maintenant, on cherche à débusquer un avantage physique injuste et disproportionné. Alors, rien que la dénomination, moi, ça me fait un peu grincer des dents, puisqu'on n'imagine pas une seconde aller tester des sportifs masculins pour débusquer chez eux qui auraient un avantage physique et les exclure des compétitions. Bizarrement, chez les femmes, les avantages physiques sont chez les hommes, pardon, les avantages physiques sont plutôt mis en avant et personne n'oserait contester qu'il y a bien des avantages génétiques chez certains sportifs qui font qu'à effort et entraînement égal, il y en a certains qui auront de meilleurs résultats. Mais chez les femmes, par contre, c'est une autre histoire et avoir un avantage physique, apparemment, c'est interdit. Cet avantage physique, il se mesure essentiellement par le biais du taux de testostérone. La testostérone, c'est une hormone que tout le monde produit, qu'on soit assigné homme ou femme, et pour laquelle on constate des variations dans les taux de production entre les femmes, mais aussi entre les hommes. Chez les hommes, on ne se pose pas la question de bannir ceux qui en produisent plus. Par contre, chez les femmes, en produire plus qu'un taux défini arbitrairement, ça peut mener à l'exclusion donc. Pour les personnes concernées, ces tests de testostérone font l'objet d'un vrai combat et d'aller-retour en matière de prise de décision. On peut parler, par exemple, de l'athlète sud-africaine Caster Semenya qui remporte les championnats du monde d'athlétisme de Berlin aux 800 mètres avant de se faire exclure pour cause de taux de testostérone trop élevé. En 2018, elle est réintégrée sous condition de prendre un traitement abaissant son taux de testostérone. Et d'un autre côté, ce traitement, d'autres le refusent, comme la sprinteuse indienne Duti Chand, qui après une disqualification dépose plainte contre au tribunal arbitral du sport. Et ce dernier lui a donné raison et avait sommé la Fédération internationale d'athlétisme de prouver scientifiquement que son taux de testostérone lui donne vraiment un avantage sportif. Parce que, bien qu'à mon avis ce ne soit pas la question, il se trouve qu'il est même largement contesté le fait qu'un plus haut taux de testostérone mène à de meilleurs résultats physiques. Notamment parce que les tests qui le prouveraient portent plutôt sur des personnes dopées. Bref, cette obsession irraisonnée des hormones chez les femmes, ce n'est que la suite de logique de la peur des femmes qui ne rentreraient pas dans un moule fantasmé. Même peur qui jadis faisait interdire tout simplement le sport aux femmes pour ne pas qu'elles s'abîment l'utérus, qu'elles deviennent inaptes aux travaux ménagers ou encore qu'elles deviennent des hommes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette discrimination basée sur les hormones, elle touche les athlètes trans et surtout les femmes trans dont la question de la participation aux épreuves sportives dans la catégorie de leur genre fait l'objet d'un éternel débat. Pour les JO 2024, ce sont les fédérations qui décident d'accepter ou non les personnes trans. Et pour la Fédération internationale d'athlétisme, c'est non, dans la catégorie féminine, évidemment. Pour mettre en avant l'absurdité de ces discriminations, il n'est pas inutile de rappeler donc que ces tests de féminité ont été créés pour des personnes pourtant assignées femmes à la naissance. Les personnes trans et les personnes présentant des variations de la différenciation sexuelle mettent en lumière l'absurdité des catégories de genre dans le sport et donc l'urgence de repenser les catégories sportives sur d'autres critères.
Et on enchaîne tout de suite avec la création du GIGN.
Et oui, c'est le fun fact que vous pourrez raconter au rassemblement ce soir ou à votre prochaine mobilisation contre les JO. Mais sachez que le GIGN, donc le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, a été créé en 1974 en réponse à un échec policier qui a conduit à l'assassinat d'athlètes israéliens lors des JO de Munich en 1972. Donc c'est bien suite aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 qui a été créé en France. Le GIGN. Voilà pour ce dossier un peu décousu sur les JO. On espère que ça vous aura quand même appris 2-3 choses. On pourra mettre sur notre blog du coup notre intervention autour notamment des SAS, là, de toutes ces personnes qui se font se virer de Paris pour être mises dans différentes villes de France et des mobilisations qui en découlent à Lyon et à Saint-Étienne. Et voilà ben, pour la fin de cette émission. Peut-être pour finir, on va...
Bah, je sais pas, est-ce qu'on rappelle notre envoyé spécial?
On peut rappeler notre envoyé spécial.
Donc on rappelle notre envoyé spécial qui est au rassemblement qui avait lieu à 19h à Hôtel de Ville et qui, aux dernières nouvelles, se dirigeait vers un deuxième rassemblement à République. Et j'imagine que maintenant ils sont arrivés et que les deux rassemblements sont réunis. On a des infos tout de suite.
Oui, bonsoir. Alors, où en est ce rassemblement?
Eh bien, on vient tout juste d'arriver place de la République. Je dirais que il y avait déjà bien 200 personnes réunies là. Donc, je pense qu'on est un petit millier au moins tout de suite. Beaucoup de personnes jeunes et qui emmerdent le Rassemblement National. Donc voilà, là on est stationné place de la République, donc c'est le moment de venir nous rejoindre.
Et bah c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va vous laisser avec les bandes continues pour rejoindre le rassemblement contre l'extrême droite aux portes du pouvoir en France depuis l'annonce hier de la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron.
Et ben à tout de suite.
À tout de suite dans la rue.